France Culture.
Patrice Lumumba, un héros africain. Michel Pomarède, Thomas Duterre. Première partie. Un éphémère Premier ministre.
La République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte, une lutte sublime qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur.
Quand il s'adresse à la foule le 30 juin 1960, le jour de l'indépendance du Congo, le jeune Premier ministre se dit-il qu'il met fin au désir du roi belge Léopold II en 1885.
Il rêve de créer pour son compte un nouvel État africain qui sera une colonie d'affaires, de grandes affaires. Il fonde l'Association internationale africaine. Un an plus tard, un coup de théâtre se produit. Un journaliste audacieux, Stanley, qui en qualité d'envoyé spécial du New York Herald, était parvenu à retrouver Livingston, l'explorateur dont le monde entier était sans nouvelles, a pu suivre le cours de ce fleuve mystérieux que nul n'avait jamais identifié. Traversant l'Afrique d'est en ouest en 999 jours, il arrive à Boma, à l'embouchure du Congo. Léopold II engage le reporter explorateur comme son principal agent. L'État indépendant du Congo est alors reconnu par la conférence de Berlin en 1885, avec le roi Léopold à titre personnel comme souverain. 13 ans plus tard, en 1898, un chemin de fer, le premier construit en Afrique centrale, relie Léopoldville à son port Matabi.
Le jeune Premier ministre, né en 1925, se rappelle-t-il ses années à l'école des missionnaires belges ?
Mes parents sont des catholiques et se sont mariés religieusement à l'église. Et nous sommes quatre enfants, tous les garçons. Nous avons tous été élevés dans la doctrine catholique. Mais toutes mes études primaires, je les ai faites chez les protestants.
Il a commencé dans une école catholique et puis une école protestante dans la suite.
Isidore Dewell, historien à l'université de Kinshasa.
Pendant la période coloniale, être catholique ou être protestant, ce n'est pas un choix individuel, c'est simplement le territoire dans lequel on est. Il y a un territoire qui est sous la coupe du protestantisme, un autre sous le catholicisme. Si vous faites partie de ce territoire, vous êtes bien obligé d'aller à l'école, d'être instruit dans cette religion. Donc, qu'on passe de l'un à l'autre, c'était courant. D'ailleurs, localement, on ne connaissait pas très bien la distinction entre les deux. Si ce n'est que le missionnaire vous disait « n'allez pas trop ». Chez les autres, il faut brûler les Bibles qu'ils présentent parce que ce n'est pas la vraie Bible, et réciproquement. Mais il faut dire aussi que sur le plan colonial, la distinction était essentiellement politique, puisque les missionnaires catholiques étaient belges et très souvent les protestants étaient hollandais, suédois, américains, écossais. Et donc, de ce fait-là, on ne voulait pas tellement qu'on puisse se rapprocher de ces missionnaires-là.
J'étais profondément éduqué dans la doctrine chrétienne. J'avais ce sentiment, et mon père, ma mère m'ont toujours dit, il ne faut pas être méchant, il faut être bon envers les gens. Même quand on vous a frappé, il ne faut pas répondre. Et alors, je n'ai jamais compris dans ma vie pourquoi à l'école, on nous enseignait qu'il faut tout être bon, il faut la charité chrétienne, il faut l'amitié entre les hommes. Comment on peut concilier l'instruction que l'Européen nous donnait à l'école, les principes de civilisation et de morale, avec les actes que ces Européens commettaient vis-à-vis des populations noires?
Ensuite, très rapidement, il va aller dans la grande ville qui se trouve plus au nord de sa région d'origine, qui s'appelait Stanleyville à l'époque, que nous appelons aujourd'hui Kisangani. C'est là, en fait, qu'il commence son, je dirais, son déploiement, parce qu'il découvre la grande ville, mais il découvre surtout le racisme et la distinction qu'il y a entre le traitement donné aux fonctionnaires coloniaux et aux autres. Parce que assez rapidement, puisqu'il a en fait une formation de type autodidacte, il devient assez rapidement un fonctionnaire de la poste. Et là, à la poste, il constate qu'il y a de fortes distinctions. Alors, il entre également dans les différents réseaux associatifs. Dans l'entre-deux-guerres, il y a le début de cette classe des premiers lettrés de l'époque. On utilisait le concept, le terme de « évoluer », dont son ambition va être d'accéder à la classe des évolués, c'est-à-dire ceux qui ont un traitement de faveur, qui n'est pas encore non plus le traitement correspondant aux expatriés. Mais enfin, c'est un traitement meilleur. À ce moment-là, en fait, il exerce un peu tous les métiers possibles qui lui passent, je dirais, sous le nez. Parce que avec l'ouverture des premières bibliothèques et les premières périodiques où il est permis aux indigènes d'écrire des choses, il s'exerce dans le journalisme et il a écrit bien des choses, évidemment, en tant que journaliste. C'est d'ailleurs dans le contexte du journalisme qu'il rencontrera un autre journaliste qui sera son ami et finalement son ennemi, son adversaire, Mobutu.
En 1954, il reçoit sa carte d'immatriculé. Ça veut dire quoi être immatriculé à l'époque ?
Alors, il y avait une distinction dans la classe de ces lettrés, premiers lettrés. Il y a ceux qui avaient la carte de mérite civique et ceux qui étaient immatriculés. Il y avait quelques distinctions. Être immatriculé, c'était beaucoup mieux que d'être détenteur simplement de la carte de mérite civique. Pour accéder à ce genre de grade, on venait à la maison, à votre maison, voyez si c'est propre, si votre femme s'est organisée, sa cuisine, si les enfants sont bien habillés. Donc c'est des éléments, je dirais, aussi drôles qui faisaient qu'on pouvait passer maintenant d'une classe de mérite civique à celui d'immatriculé.
Immatriculé, il y en avait 217 en 1958 sur un total de 13 millions d'habitants. Est-ce à dire que Patrice Lumumba appartenait à une caste de privilégiés ?
Absolument, puisque les statistiques que vous évoquez démontrent très bien que ce n'était pas à la portée de tout le monde.
Je cite toujours l'exemple d'un Belge. Il était mon chef administratif. Nous avions le même âge, mais j'avais un background supérieur au sien, parce que quand on termine la philosophie, chez les pères jésuites, c'est, me semble-t-il, supérieur à celui d'un jeune qui n'a que son bac.
Cléophas Kamitatou, homme politique, enregistré à Kinshasa en 2008.
C'était mon chef de service. Et j'étais sous ses ordres, et c'est tout. Je connaissais les petites rivières de Belgique. Je crois que lui ne connaissait que le Kwilu et le Kwango où il avait été affecté. Mais moi, pour passer mes examens, je devais savoir où était Lescaut, où était la Meuse, où était Valenciennes en France, etc. Ça, je devais connaître.
Est-ce que vous avez eu à souffrir de la ségrégation mise en place par les Belges qui interdisait aux Congolais d'aller dans certaines régions, certains quartiers ? Est-ce que vous avez subi ça ?
Bien sûr. notre génération l'a subi, je l'ai subi. Par exemple, n'étions pas autorisés à acheter du vin. N'étions pas autorisés à acheter, évidemment, les alcools forts encore moins, ni le whisky, ni le champagne. Tout ça était interdit aux noirs, ici. Il fallait être un noir spécial qu'on appelait l'immatriculé. Et pour ça, il fallait faire tout un exercice pour devenir immatriculé. Notre génération a dit, nous n'entrerons pas dans ce jeu-là. Je suis ce que je suis. Je ne veux pas aller prendre un brevet pour montrer que je suis instruit, que dans ma maison, ma femme tient bien la maison, que nous avons les enfants, nous leur parlons français, nous les élevons bien. Il fallait un certificat. Passer donc des tests pour être autorisé à entrer dans les magasins réservés aux Blancs. Ça, c'est un. Deux, le passage d'une zone à l'autre. Par exemple, là-bas, c'était les districts. J'appartenais au district de Kwilu. Je ne pouvais pas venir ici à Kinshasa. Kinshasa s'appelait Léopoldville. Et ce qu'on faisait à moi, on le faisait à beaucoup d'autres. Je suis un ami et peut-être le plus sincère de Patrice Lumumba. Je suis son défenseur de son vivant comme après lui. Patrice Lumumba est un homme qui a des déboires avec l'administration belge. Et le secteur privé le tente. Comme c'est un homme qui parlait bien, on considère qu'il pouvait faire un très bon agent commercial. Et voilà que Lumumba, en 1957, est recruté comme délégué commercial de la bière Polar. Il a donc la chance, plus que tous les autres Congolais, de faire le tour du pays. Et il circule. Je vous dis, ma première rencontre avec Lumumba, fin 57, c'est autour d'une réunion de la bière Polar. Il vient qu'il quitte la petite ville dans laquelle je vivais. Il réunit tout le monde. On m'invite et je rencontre Patrice Lumumba pour la première fois. Nous ne parlons pas politique. On ne parle pas politique. Une année après, ça, 58, pendant que Lumumba fait ses tournées, un événement se passe. La Belgique fête les 50 années d'annexion du Congo à la Belgique. 50 années de colonisation réelle. Et le 18 octobre, le ministre des colonies dit l'Afrique est en train d'aller vers son émancipation. Tout le monde est autorisé de faire de la politique. La Belgique n'a pas autorisé. À partir d'aujourd'hui, les Congolais peuvent parler politique et peuvent créer des partis politiques. Lumumba est le premier à saisir l'occasion. Il réunit quelques amis et il crée leur parti, le Mouvement National Congolais. C'est alors que commence sa carrière politique. Et sur ces entrefaites, en novembre, le gouvernement belge autorise les Congolais qui avaient été invités à Accra, à une réunion panafricaine, à s'y rendre. Lumumba y va. Le 28 décembre, Lumumba fait une déclaration dans un meeting public au cours duquel il dit « Le Congo va suivre le pas des autres pays africains pour accéder à l'indépendance. »
C'est à ce moment-là que le colonisateur aura vraiment peur parce que il risque même de déclarer, il l'a dit à un moment donné, s'il traîne, nous pouvons déclarer nous-mêmes l'indépendance du Congo.
Donc il y a ce voyage à Accra, où il rencontre les grandes figures de l'indépendance africaine En Marche, mais il y a aussi le voyage à l'exposition universelle de Bruxelles, en 1958. Et là, que découvre Lumumba dans le récit que fait le colonisateur belge de son propre pays?
1958, c'est une grande année pour Lumumba. Qu'est-ce qui se passe à cette exposition universelle à Bruxelles? C'est d'abord la première fois où il y a un nombre si important de Congolais qui arrivent en Belgique.
L'historien congolais Isidore Dewel.
La première découverte d'abord, c'est de rencontrer d'autres évolués, parce que sur le territoire congolais, il était interdit de circuler. Donc les évolués se connaissaient par simplement les lectures dans les revues qui étaient disponibles, mais ne s'étaient pas encore rencontrés physiquement. C'est à cette occasion qu'ils se rencontrent, qu'ils discutent entre eux. Et puis ensuite, ils découvrent un autre type d'Européen qui n'est pas représenté dans la colonie, c'est-à-dire des ouvriers, des gens simples, des délégués syndicaux, des gens de gauche qui tiennent absolument un tout autre discours. Mais ils découvrent aussi, parce que à ce moment-là, je dois le dire, Lumumba va également à Paris. Il découvre présence africaine. Je me rappelle bien Madame Alioune Diop qui m'a raconté avoir fait la cuisine pour Lumumba à Kasavubu. Donc c'est pour la première fois qu'il rencontrait également des Antillais, des Guadeloupéens, des Martiniquais, des Africains autres, non seulement ceux du continent, comme Senghor et les autres, Alioune Diop notamment, mais également ceux qui provenaient vraiment de plus loin. Et donc ça va être un déclic.
C'est alors que j'ai commencé à prendre de plus en plus conscience. Alors, j'ai commencé, n'est-ce pas, à étudier les révolutions à travers l'humanité, et très souvent la révolution française, les causes qui ont été à la base de cette révolution. Mm-hmm. Pourquoi ces gens se sont révoltés? Pourquoi ils ont lutté pour la liberté? Et j'ai compris que vraiment, à travers toutes les révolutions, il y a un élément profond. C'est la lutte contre l'injustice, contre l'oppression.
La radiodiffusion télévision française présente le magazine...
La suite des événements, c'est la radio française qui la raconte en janvier 1959.
Au micro, René Poitier. Eh bien, Philippe de Crène, je crois que pour commencer notre émission, il s'impose de parler tout d'abord du Congo belge.
Oui, il y a deux nouvelles importantes concernant le Congo belge qui viennent de parvenir à Paris. La première concerne des émeutes qui ont éclaté à Léopoldville, où il y aurait plusieurs blessés.
Tout de suite après les émeutes du 4 janvier, les partis politiques se créent. Il n'y avait que le MNC qui avait créé un parti politique. Et les Belges avaient favorisé l'émergence d'un deuxième parti, le Parti National du Progrès, PNP. Nous l'appelions le Parti Proche du Blanc. Et à partir de la fin des émeutes, tout le monde est autorisé et les partis politiques se mettent en place. Il y en a eu 44 sur la période. Donc ils sont tous nés entre la fin des émeutes et la table ronde. Donc ça fait pratiquement une année, 12 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Trois grands événements peuvent résumer cela. Le premier, c'est le discours du roi des Belges, qui tire le leçon des émeutes le 13 janvier 1959.
Notre tâche de guide et de conseiller, à nous, métropolitains et blancs du Congo, doit se poursuivre, tout en se transformant et s'atténuant, à mesure des progrès réalisés. Au demeurant, loin d'imposer à ses populations des solutions toutes européennes, nous entendons favoriser des adaptations originales répondant au caractère propre et aux traditions qui leur sont chères. À cet égard, une large décentralisation, conjuguée avec une extension rapide du système électoral et l'abandon de toute discrimination entre noirs et blancs, permettra de hâter et de diversifier l'épanouissement des régions selon leurs particularités géographiques, culturelles, raciques, ainsi que leur développement économique.
En fin d'après-midi, M. Van Emmelreich, ministre du Congo et du Rwanda Urundi, a bien voulu me recevoir dans son cabinet ministériel. Monsieur le ministre, pour 10 millions d'auditeurs, voulez-vous, s'il vous plaît, en quelques mots, résumer les propositions contenues dans la déclaration gouvernementale qui a été lue cet après-midi, tant à la Chambre qu'au Sénat, en ce qui concerne l'avenir du Congo?
La déclaration est très catégorique en ce qui concerne le but final que nous poursuivons au Congo. Nous voulons mener les populations congolaises à un stade d'autonomie et de souveraineté tel qu'elles puissent se prononcer en connaissance de cause au sujet de l'indépendance de leur pays et des relations futures qu'elles auront encore avec la Belgique.
Il dit, la Belgique a compris maintenant ce qui est en train de se passer au Congo. La Belgique ne s'opposera pas à l'indépendance. La Belgique va conduire le Congo à l'indépendance sans atermoiement funeste et sans précipitation inconsidérée.
Cléophas Kamitatou, homme politique congolais, enregistré à Kinshasa en 2008.
À partir de ce moment-là, commence la série de voyages des autorités belges, des ministres belges, des parlementaires. Ils voulaient vérifier si cette indépendance était demandée par une petite fraction, dans une petite élite, ou si c'était le peuple congolais qui voulait l'indépendance.
À cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, ni les Congolais du décennant ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Une lutte de tous les jours, une lutte ardente et idéaliste, une lutte dans laquelle nous n'avons mélangé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang.
Est-ce qu'on peut s'arrêter sur un portrait physique de Lumumba ? Barbe, lunettes et nœud papillon.
Oui, je pense que c'est le modèle colonial de l'homme congolais qui est l'égal de l'Européen. Et j'oserais dire encore, il y a une raie dans les cheveux. Il se présente comme s'il était une personnalité coloniale. Et donc, le passage de la colonisation à l'indépendance, c'est ça, c'est aussi cela. C'est l'émancipation, c'est le fait que l'Africain est légal et peut se présenter comme tel.
L'impression que nous avons eue, c'est que le roi n'avait pas compris que le 30 juin constitue une rupture. Il est venu pour nous annoncer combien son arrière-grand-père avait fait des miracles, avait sorti les sauvages que nous étions de la forêt, de la maladie, etc. C'est vrai tout ça, on ne nie pas. Mais est-ce qu'il faut venir afficher ça à la gueule des gens un 30 juin, le jour où pour eux, il y a un changement de statut par rapport à toutes les souffrances qu'ils ont connues, par rapport à la discrimination, par rapport à tout le reste. Bon, la Belgique n'a pas compris ça, ils voulaient afficher ça. Kazaouba n'a pas réagi. Lumumba n'a pas accepté. Il a estimé que c'était une humiliation que de venir rappeler cela au Congo.
Mais alors que le protocole initial prévoyait que fût proclamé solennellement à cet instant l'indépendance du Congo, M. Patrice Lumumba, Premier ministre, se lève à son tour, monte à la tribune et dresse pendant 20 minutes d'une voix étrangement calme et déterminée un véritable réquisitoire de la tutelle coloniale belge. Fréquemment interrompu par les applaudissements d'une partie des sénateurs et députés, M. Lumumba exalte la lutte menée par le peuple congolais pour la conquête de son indépendance.
Cette lutte, qui fit des larmes, des feux et des sang, nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes, car ce fut une lutte noble et juste, une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force. Ce qui fit notre sort à 80 ans du régime colonialiste, nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Hommage aux combattants de la liberté nationale. Vive l'indépendance et l'unité africaine. Vive le Congo indépendant et souverain.
Alors ça crée évidemment un gros malaise chez les Belges, même chez les Congolais. Le président Kazaouba lui-même était mal à l'aise. Le roi des Belges a décidé de repartir le soir même. On a dû négocier ferme pour qu'il reste. Mais le mal était fait. Le mal était fait pour les Belges et la décision était prise dès ce jour-là de s'en débarrasser. Le roi a dit, on ne va pas collaborer avec ce type-là. Alors, les Américains viennent à la rescousse et Lumumba est déjà considéré comme un homme à abattre.
Nous sommes nés de nouveau, allez, à notre soif, à l'Afrique noire.
30 juin 1960, indépendant Tchatcha de Tuzuyé, c'était nous avons obtenu notre indépendance. Tchatcha, c'était la danse de l'époque. Nous avons gagné notre table ronde. Indépendant Tchatcha Tuzuyé. Au table ronde, Tchatcha Toganeo. Asore Konabako. Balingani Motomoko, etc. Mon nom s'y trouve aussi, alors je n'arriverai pas jusque-là.
Patrice Lumumba, un héros africain avec l'homme politique Cléophas Kamitatou, enregistré à Kinshasa en 2008, et l'historien congolais Isidore Dewel. Particulière, coordination Emmanuel Laurentin, chargée de programme Sandrine Chaperon, mixage Pierre-Henri, réalisation Thomas Duterre, un documentaire de Michel Pomarède.